Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la bande FM qui aborde la culture rétro geek et présentée par votre serviteur Johan Sega. Jingle. La rubrique Le jeu du jour. Aujourd'hui dans Le jeu du jour, dans votre émission Carrément Rétro, un jeu monument Tetris. Et oui, Tetris est un jeu vidéo de puzzle conçu par Alexis Pajinov en juin 84. Le jeu est édité par plusieurs sociétés au cours du temps, à la suite d'une guerre pour l'appropriation des droits à la fin des années 80. Le déroulement précis du développement et des premières commercialisations est encore débattu dans les années 2010. Après une exploitation importante par Nintendo, les droits appartiennent depuis 1996 à la société The Tetris Company. Cette société a vendu les droits d'exploitation sur téléphone portable à Electronic Arts et sur console à Ubisoft. Tetris met le joueur au défi de réaliser des lignes complètes en déplaçant des pièces de forme différentes, les tétronominaux, qui défilent depuis le haut jusqu'au bas de l'écran. Les lignes complétées disparaissent tout en rapportant des points et le joueur peut de nouveau remplir les cases libérées. Le jeu n'a pas de fin. Le joueur perd la partie lorsqu'un tétromino reste bloqué en haut. Il doit donc résister le plus longtemps à la chute continue des tétrominos afin de réaliser le meilleur score. Dans le cas d'une partie à plusieurs, le but est de résister plus longtemps que son adversaire, sachant qu'il est possible de s'envoyer des malus en réalisant des combinaisons de lignes. Selon le journaliste spécialisé Bill Kunkel, Tetris répond parfaitement à la définition du meilleur en matière de jeu, une minute pour l'apprendre, une vie entière pour le maîtriser. Bâti sur des règles simples et exigeant intelligence et adresse, et oui, c'est pas pour Teddy, il est considéré comme un des grands classiques de l'histoire du jeu vidéo, aux côtés de Pong, Space Invader ou encore Pac-Man. Le jeu est adapté sur la plupart des supports de jeu, aussi bien sur ordinateur que sur console de jeu et téléphone mobile. Certaines versions apportent des variantes comme un affichage 3D, un système de réserve ou encore du jeu multijoueur. En 2010, Tetris compte plus de 170 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis 1984. Disponible sur plus de 65 plateformes, sa version la plus mémorable est sur Game Boy de Nintendo, classé comme étant le quatrième jeu le plus vendu de l'histoire, avec 30 260 000 unités écoulées. Dans le même temps, en avril 2014, il est annoncé que la franchise a atteint plus de 425 millions de téléchargements payants sur téléphone mobile depuis 2005, le classant premier des jeux vidéo les plus vendus. Tetris est ancré dans la culture populaire et sa notoriété dépasse celle de la sphère vidéoludique avec des imitations du jeu sur des bâtiments, de nombreuses reprises du thème original ou encore des costumes de Tetriminos. Le jeu fait également l'objet de différents travaux de recherche. Plusieurs chercheurs ont analysé sa complexité théorique alors que d'autres ont montré les effets sur le cerveau après une session de jeu, notamment l'effet Tetris. Mais revenons au jeu. Tetris est principalement composé d'un champ de jeu où des pièces de formes différentes, appelées Tetriminos, descendent du haut de l'écran. Durant cette descente, le joueur peut uniquement déplacer les pièces latéralement et leur faire effectuer une rotation sur elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles touchent le bas du champ du jeu ou une pièce déjà placée. Le joueur ne peut ni ralentir la chute des pièces, ni l'empêcher, mais il peut dans certaines versions l'accélérer. Le but pour le joueur est de réaliser le plus de lignes possible afin de garder l'espace pour placer les futures pièces. Une fois une ligne complétée, elle disparaît et les blocs placés au-dessus chutent d'un rang. Si le joueur ne parvient pas à faire disparaître les lignes suffisamment vite, l'écran peut alors se remplir jusqu'en haut. Lorsqu'un tétrimino dépasse du champ de jeu et empêche l'arrivée de tétrimino supplémentaires, la partie se termine. Le joueur obtient un score qui dépend essentiellement du nombre de lignes réalisées lors de la partie. Le jeu ne se termine donc jamais par la victoire du joueur. Avant de perdre, le joueur doit tenter de compléter un maximum de lignes. Pour ce faire, il peut éliminer plusieurs lignes d'un coup, ce qui lui rapporte des points de bonus dans la plupart des versions du jeu. Il est possible de compléter jusqu'à 4 lignes en même temps grâce au tétrimino. Ce coup est appelé un Tetris, comme le nom du jeu. Au fur et à mesure que le joueur complète les lignes, son niveau augmente, accroissant le nombre de points réalisés par ligne complétée. Dans la plupart des versions sur jeu, la vitesse de chute des pièces augmente à chaque prise de niveau, laissant moins de temps au joueur pour réfléchir au placement. Le principal objectif pour le joueur consiste alors non pas à gagner, comme la plupart des jeux vidéo, mais à obtenir le plus grand score via des combinaisons et de l'endurance. Le rôle du joueur est donc de constamment corriger ses erreurs. Depuis 1996, The Tetris Company a défini en interne des spécifications ou guidelines que les éditeurs doivent respecter afin de se voir octroyer les droits sur la licence. Côté musique, les premières versions du jeu ne possèdent pas de musique. C'est sur console que les premiers fonds sonores apparaissent pour rendre le jeu plus vivant. La version NES de Nintendo intègre trois musiques en jeu, notamment Danse de la Fée, Dragée et l'acte 2 de Casse-Noisette, composée par Tchaïkovski. Le jeu possède deux autres musiques de fond qui sont des compositions originales de Hirokazu Tanaka, un compositeur japonais ayant déjà travaillé sur d'autres jeux de Nintendo. Chacune de ces mélodies est déclinée en deux versions, une au rythme normal et une autre avec un rythme accéléré qui s'enclenche lorsque le joueur est sur le point de perdre afin de rendre le jeu plus intense. La bataille juridique qui a tourné autour de Tetris se complexifie aux alentours de l'année 88. Spectrum Holobit a vendu ses droits sur les ordinateurs et les bornes d'arcade au Japon à Hank Rogers en recherche de jeux pour le marché nippon. Mirror Soft a vendu les siens à Atari, plus précisément sa filiale Tengen dont nous avions abordé ce sujet lors des dernières émissions sur Atari. Et ces dernières céderont les droits sur les arcades à Sega et sur les consoles à Rogers. Finalement, près d'une dizaine de sociétés estiment avoir les droits sur le jeu alors que Stein n'a les droits que sur les ordinateurs. Les soviétiques n'ont toujours pas conscience des accords que Stein a négociés qui ne rapportent pas d'argent à l'Académie des sciences. Le jeu est pourtant un succès commercial sur les trois continents principaux du globe. Côté prix à notre époque pour un jeu Tetris, comptez de 1 million de dollars USD pour la version Mega Drive car seulement 7 exemplaires sont sortis officiels Sega jusqu'à quelques centimes d'euros pour une version Game Boy. Ce jeu n'est toujours pas dépassé et toujours addictif à notre époque. La pause musicale dans votre émission Carrément Rétro, c'est avec Johnny Holla, Interstellar Journey to On a Knove. C'était Johnny Holla dans votre pause musicale sur l'émission Carrément Rétro. La rétro interview sur le 90.2 FM. Carrément Rétro, l'émission, l'interview sur le 90.2 FM. Et aujourd'hui, je reçois un ami Facebook, un collectionneur de ouf, parce qu'il est complètement ouf, mais aussi il a créé une association il y a quelques années. Comment t'appelles-tu, petit bonhomme?
Je m'appelle Mathias, j'ai créé Rétro Taku, pour ne pas la citer.
Eh bien, Rétro Taku qu'on embrasse d'ailleurs, qui, je sais, écoute l'émission. Mathias, Si t'es là, c'est pas pour parler de Rétro Taku, c'est pour parler d'une passion qui a trois lettres.
La NEC, peut-être.
Ça doit être ça, ouais.
En fait, juste, je veux revenir sur un truc, j'ai pas créé la sauce tout seul, hein. Ça ne se crée pas tout seul une sauce. Voilà, j'avais quand même pas mal de potes pour m'aider.
Oui, bah ça, on est d'accord, parce que comme vous pouvez l'entendre, il y a une ambiance derrière. On est au salon Carrément Rétro, effectivement, l'association Carrément Rétro, qui nous reçoit Carrément Rétro, l'émission, ne s'est pas créée toute seule. Bien, Mathias, attaquons, pourquoi NEC?
Alors, la NEC, du coup, on va dire que j'étais donc. Mon frère s'était abonné au Tilt Magazine. Et donc du coup, dans un tilt, le tilt 91, je crois, qui retraçait les meilleures bécanes, les meilleurs jeux sur toutes les catégories confondues, je vois un petit bonhomme qui s'appelle PC Kit 2, et je me dis sur PC Engine, je me dis, ah, c'est quoi cet ordinateur PC? Et en fait, non, plus tard j'ai appris que la PC Engine était une console, et non pas un ordinateur. Et donc voilà, je suis devenu complètement amoureux de cet univers un peu kawaii, coloré, où les petits bonhommes pour taper, bah, n'utilisent pas des pistolets mais des coups de boule, grimpent les falaises avec les dents, voilà, et s'enroulent dans les airs, et attrapent des fleurs, même les méchants avaient des filets à papillons, et donc on n'avait même pas envie de les tuer, quoi. Ils étaient trop adorables, les méchants.
C'est vrai que PC Kid avait vraiment un univers à lui, un peu comme pour les Sega Man Alex Kid, bien qu'Alex Kid était beaucoup moins fun pour moi que PC Kid. Moi j'ai préféré Alex Kid, mais tu vois, je reconnais quand même le côté fun. Alors, mais au-delà de ça, il y a les shoots aussi, il y a tout sur NEC.
Alors oui, t'as raison d'en parler. C'est vrai que je suis rentré par, on va dire, la petite porte plateforme kawaii, on va dire, hyper colorée de la NEC avec PC Kid. Mais très vite, quand j'ai acheté ma première console, j'ai eu Cybercore, un jeu qui paye pas de mine, qui code pas des masses, je crois, de mémoire, mais qui est vraiment juste génial. Il est réactif à souhait. La Mega Drive était juste pas, était incapable de faire la même chose au même moment, quoi. C'était hyper réactif. Alors évidemment, les graphismes étaient peut-être un petit peu en deçà. Derrière, il y avait un petit peu moins de scrolling, de fioritures. Par contre, c'était d'une efficacité. C'était du 60 Hz déjà. Alors que nous, on avait que du 50 Hz. Donc, on voyait la différence à l'écran, je peux te le dire. Et aussi, la manette Mega Drive que j'apprécie pas spécialement. Tiens, je vais peut-être pas me faire un ami aujourd'hui.
Ouais, non, je vais te mordre un peu. Mais c'est pas grave. Vas-y, on est là pour se faire des ennemis aussi.
Ouais. Donc voilà. La manette NEC, elle répondait nickel aussi.
Alors moi, tu vois, puisqu'on n'est pas dans un débat, on n'est pas là pour ça, dans le cadre d'une interview, Bobby. Mais moi, tu vois, il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourtant, je le reconnais. C'est le meilleur portage de Street Fighter 2, génération 16 bits. C'est le Street Fighter 2 sur la NEC, je crois, PC Engine, en U-card, hein, me semble-t-il. En revanche, la manette est tout simplement pourrie pour un Street Fighter 2 avec deux boutons.
Alors, en effet, Street Fighter 2, on peut en parler un petit peu. Pour info, déjà, pour que la NEC puisse faire ce jeu, alors qu'elle était limitée à 4 émos, les petites U-cards étaient limitées à 4 émos. Et ils ont dû faire une excroissance sur la cartouche. Il y en a deux jeux comme ça, c'est Populous, que pas un jeu que je conseille personnellement, c'est vraiment mieux sur PC avec une souris. Et Street Fighter 2, donc, qui a une petite excroissance qui passe à 16 mégaoctets, qui permet donc de jouer sur PC Engine. Évidemment, il est un petit peu allégé, pareil derrière, c'est pas de la Super Nintendo, par contre il réagit au quart de tour. Alors sur la manette de bouton, comme tu le dis, c'est horrible. T'as le bouton Start qui sert de gros coup de poing, je crois, et t'as le bouton Select à côté qui permet de passer des coups de poing au coup de pied, donc c'est juste horrible en fait à jouer sur une manette de bouton. Par contre, il y a une manette qui on pouvait acheter, une manette 6 boutons, l'avenue Pat 6 par exemple, il y en avait d'autres, ou des sticks aussi qu'on pouvait acheter à 6 boutons, et là c'était juste parfait.
Alors je sais, je passe, tu vois, pssst, hop, parce qu'on est limité dans le temps, hein, Bobby, comme tu le sais dans notre émission. Je passe très vite à autre chose. On te retrouve où? Parce que je sais que t'es un fan de la Retro Gaming, la RGC, la Retro Gaming Convention, et je sais que t'es connu là-bas parce que t'as une putain de collection de NEC. Enfin, c'est juste la folie. On te retrouve sur YouTube d'ailleurs avec Olivier Wawa qui t'a interviewé. Olivier d'ailleurs que j'attends au micro de mon émission incessamment sous peu, quand il aura 5 minutes, le pauvre. Et je sais que t'as une grosse collection. Alors pourquoi la RGC plus qu'autre chose?
Alors la RGC, c'est une histoire d'amour qui a commencé en 2007. J'avais pas encore créé Retro Taku justement. D'ailleurs, Retro Taku aurait très bien pu s'appeler la RGC 72 à l'époque, parce que j'étais déjà, ça faisait quelques années que j'étais sur les forums à droite à gauche dans France, on va dire, de rétro gamer, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas 3000 plateformes, il y en avait peut-être 5-6, dont la RGC, et donc ils avaient prévu donc de faire cette fameuse RGC, c'est déjà la 3ème ou 4ème, ils étaient 20 à l'époque, ils ont fait ça dans un salon à 6 ou 7, la première RGC, au début 2000, et en 2007, on était déjà arrivé à 20-25, peut-être même une quarantaine en fait, et ils m'ont demandé, comme j'étais déjà très présent dans le monde de la NEC et très actif, c'était les 20 ans de la NEC en 87, et j'ai proposé de faire le stand NEC. C'est comme ça qu'a commencé un peu l'histoire d'amour avec les RGC, et que chaque année j'y vais depuis, je suis complètement mordu, voilà.
Eh ben écoute, je pense un jour venir avec toi, parce que j'ai pas pu venir cette année. Je sais que tu m'as invité en disant hey, viens dès avec moi. On essaiera de venir, d'ailleurs l'émission essaiera de venir s'exporter à la RGC, on verra ça avec les organisateurs. Je te remercie Bobby pour cette interview. En revanche, je te lâche pas, parce qu'on en refera une, mais spécialement sur ta collection et sur tes machines coup de cœur. Voilà, tout simplement. Alors je te dis au revoir.
Le rendez-vous est fixé, on va dire. Eh ben salut Johan, à plus.
Eh bien salut à toi Bobby, merci. Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur johan@ornithorynque.net. Je répète, johan@ornithorynque.net. Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine.